Alors, bonjour Vincent, moi ça fait vraiment plaisir de te voir aujourd'hui pour un échange encore une fois. On parle de transition socio-écologique énergétique et un titre qui est vraiment tiré d'un classique de la littérature, Orwell. Donc, pourquoi parles-tu d'une écologie orwellienne? Dis-moi tout.
Alors, merci Fred encore de ce moment passé avec toi. On va discuter de la façon qu'on a de construire des narratifs, des récits qui me semblent malheureusement un peu trop s'inspirer de dystopies que des auteurs absolument talentueux ont réussi à transcrire sous forme de romans, mais qui peuvent éventuellement éclairer la période qu'on vit aujourd'hui. Toi, je sais que tu travailles dans une entreprise qui se pose beaucoup de questions sur comment organiser, prévoir, anticiper et surtout prendre des décisions. Et je pense qu'il y a une forme d'appropriation de narratifs qui sont censés répondre aux questions des entrepreneurs et des citoyens en général, hein. Mais plus spécifiquement aujourd'hui des entrepreneurs. Quantité de narratifs qui sont liés à l'écologie, qui sont censés répondre à leurs questions, mais qui, à mon sens, apportent beaucoup plus de confusion, voire de vrais problèmes, et c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Et c'est toi qui m'as inspiré l'introduction de cet échange tous les deux. Cette machine à écrire, là, dont tu dis que le clavier, hein, enfin, tu rappelles dans un des posts sur LinkedIn, que le clavier est un exemple de verrou, de verrouillage au changement. On n'arrive pas à adopter de nouveaux claviers plus performants, dont les lettres seraient mieux installées en fonction de notre frappe. Parce qu'en fait, au départ, les machines à écrire, comme l'image le montre, elles avaient des tiges qui partaient, elles étaient déclenchées par la frappe, elles partaient sur la feuille de papier, sauf que ces tiges, parfois elles se croisaient et ça ne marchait pas. Elles se bloquaient, la machine ne marchait plus, il fallait bouger les tiges manuellement, ce qui était contraignant. Et donc les lettres sur le clavier ont été disposées pour éviter que les tiges, en moyenne, se choquent, se croisent, etc. Sauf que aujourd'hui, les claviers n'ont plus du tout de tiges, mais qu'on a gardé cette disposition des touches qui n'est pas optimale pour la frappe. Et donc, cet exemple montre que on peut, pour des raisons X, à un moment donné, organiser quelque chose de notre quotidien, de notre rapport à la technique, et puis rester bloqué pour diverses raisons, et ne pas parvenir à changer, un verrou au changement, un frein au changement. Et on va essayer de transposer ça à l'écologie. Alors, tu voulais qu'on parle un peu de Rennes Rouge. Oui. C'est un sujet qui t'intéresse. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, peut-être.
Oui, mais c'est vrai que c'est la course-poursuite. Et là, l'exemple typique, c'est l'IA. C'est tellement, tellement un exemple qui est frappant. C'est que si tu n'as pas l'IA dans tes produits, en fait, tu es has-been. Et donc, en fait, il y a une course entre tout le monde pour intégrer l'IA dans ses produits, pour intégrer l'IA dans ses process, parce qu'il y a les boss qui disent qu'il faut le faire. Il y a l'exemple qui disent, mais si tu ne le fais pas, t'es perdu, t'es foutu. Et donc, en fait, c'est vraiment cette course en avant. Ouais, moi aussi, je dois attraper l'IA. Moi aussi, moi, je dois faire de l'IA. Et la reine rouge, c'est exactement ça. C'est que tu prends pas le temps d'arrêter parce que tu dois faire comme les autres, parce qu'autrement, tu seras dépassé sur ton marché. Alors, dans une vision court terme, c'est vrai. Parce que si tu, dans tes produits, moi je parle dans le domaine de logiciels que je connais le mieux, hein, si tu ne parles pas d'IA, forcément tu fais has-been, les gens ne vont pas acheter par exemple une vieille voiture alors qu'ils peuvent avoir un modèle récent avec la clim et tout ça. Donc déjà tu as cet aspect ancienneté, obsolescence du produit. Puis la deuxième chose, c'est vraiment cet aspect productivité. C'est vrai que intégrer l'IA dans les produits, ça apporte de nouvelles possibilités, etc. Mais en même temps, là, moi je suis en réflexion pour me dire, mais peut-être qu'il faut prendre un petit peu de recul et se dire, non, on va peut-être, oui, on va intégrer de l'IA, mais peut-être qu'il faut aussi prendre en compte d'autres choses, comme par exemple les neurosciences et la partie humaine qui, eux, ne sont pas liées forcément à l'IA. Mais c'est vrai que cette course en avant et cette course non-stop fait que parfois, on ne prend pas suffisamment de recul. Enfin, je pense que c'est un petit peu l'image qu'il faut retenir.
Exactement, on va essayer de prendre du recul justement par rapport à cette reine rouge, cette course pour rester sur place. Je vais juste rappeler que l'image de la reine rouge vient du deuxième livre, Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, le deuxième livre s'appelle De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Et dans ce livre, Alice et la reine courent sur un damier, et puis Alice demande à la reine pourquoi la reine lui demande de courir. Et la reine, je fais très court, hein, mais la reine lui répond, il faut toujours courir plus vite pour rester sur place. Et donc, la biologie, et puis d'une façon générale, l'économie, la compréhension de la complexité de nos interactions entre pays, entre systèmes, entre armées, par exemple, c'est beaucoup inspiré du syndrome de la reine rouge pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à ne pas répondre à une injonction, bah, je ne sais pas, quand on est une armée X, au niveau de puissance de l'armée Y, parce que si on ne suit pas le niveau de puissance de l'armée Y, on ne conserve pas un niveau de défense stable, c'est-à-dire on ne reste pas sur place, on recule. Voilà, c'est ça le syndrome de la Reine Rouge. Alors Mathieu Ozanam, dans son fameux livre Or Noir, citait Dick Cheney, qui en 99 disait: depuis plus de 100 ans, en tant qu'industrie, nous avons eu à gérer ce fichu problème qui fait qu'une fois que vous trouvez du pétrole et que vous le pompez hors du sol, vous devez vous retourner et en trouver plus ou bien mettre la clé sous la porte. Produire du pétrole est de toute évidence une activité qui s'auto-épuise. Notez les mots, hein, notons les mots, c'est en 99. Hein. Chaque année, il vous faut trouver et développer des réserves égales à votre production, juste pour rester sur place. C'est exactement ça le syndrome de la Reine Rouge, c'est que pour ne rien changer, en fait, il faut malgré tout consommer toujours plus de ressources. L'exemple est typique. Tu as parlé de l'IA tout à l'heure, j'avais un exemple, mais ce n'est pas la peine de le reciter. Voilà, il y a même des études qui commencent à sortir sur l'IA en entreprise qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de gain en termes de charge de travail. Et que, comme, alors, sans doute qu'on est encore au début de l'implémentation de l'IA en entreprise, mais pour l'instant, l'enquête qui a été menée par cette étude, publiée dans le Harvard Business Review, montre que les salariés ont plutôt une augmentation de leur charge de travail
Bah oui,
quotidienne.
parce qu'on te demande de faire plus
Et voilà.
en moins de temps. Et moi, je le vois bien, des choses qu'on disait, bah non, ça va prendre du temps. Par exemple, là, nous, on avait un événement, un client, et donc, en fait, on dit, bah tiens, faut faire un logo. Bah avant, un logo, on aurait demandé à prendre du temps, machin, etc. Maintenant, faut travailler plus pour faire un design, un truc complet, et finalement, tu passes des heures parce que tu fais une maquette avec l'IA, après, tu le retouches dans ton logiciel, etc. Et finalement, tu fais des choses aussi que tu n'étais pas censé faire. Moi, je ne suis pas graphiste, et pourtant, j'ai fait une invitation au format billet d'invitation. Et c'est ça aussi, ça t'apporte de nouvelles tâches qui n'étaient pas dans ton périmètre auparavant, et donc tu dois réapprendre des choses.
Voilà, exactement. Donc on ne sort pas de la Reine Rouge avec l'IA, au contraire même. Et puis je voulais ajouter un point un peu de compréhension de ce que c'est une complexification pour une société ou pour une entreprise. Et souvent, on a l'impression qu'on se complexifie de façon linéaire, graduelle, et que les sociétés, elles ont voilà, suivi une espèce de courbe plus ou moins plate au début, qui augmente, et puis une forme d'exponentielle de complexification. Mais pour moi, la complexification, c'est un double processus qui n'est pas si simple, et surtout qui n'est pas notre quotidien. Nous ne complexifions pas nos sociétés et nos entreprises pour répondre au quotidien. Je prends l'exemple de la voiture. Une voiture normale aujourd'hui, elle a un système anti-patinage, elle a un ABS, elle a des airbags, elle a tout un tas de systèmes de sécurité qui ne servent à rien 99,9% du temps.
Ouais, sauf quand il y a un accident.
Exactement. Quand il y a un danger ou quand il faut éviter un danger, là, tous ces systèmes-là qui sont extrêmement coûteux à fabriquer, qui sont lourds à transporter parce que voilà, on cherche pas à augmenter le poids d'une voiture par défaut, qui sont donc pas forcément optimaux pour le quotidien de la voiture, eh bien ils sont nécessaires. Cette complexité qui est d'ailleurs très grande avec des systèmes électroniques, des puces, des capteurs, voilà, une ingénierie très complexe par exemple pour que l'airbag ne provoque pas plus de dégâts que de ne pas avoir d'airbag, etc., parce que ça peut blesser aussi un airbag. Tout ça, c'est une immense complexité technologique, conceptuelle, d'ingénierie. Et ça ne sert à rien la plupart du temps, mais c'est présent et ça contribue à la complexité de la voiture. Et donc, ce qu'il faut comprendre sur la complexification, mais que ce soit d'une société, d'une technologie ou d'une entreprise, c'est qu'on ne peut pas la comprendre au gré de notre quotidien, de ce qui se passe tous les jours. On le comprend au gré des risques ou des dangers auxquels sont exposées les sociétés, les véhicules ou les entreprises. La compétition, elle n'est pas toujours du même niveau, mais par contre, quand il y a un nouvel acteur sur le marché X pour une entreprise Y, si elle n'est pas prête le jour de l'arrivée de ce nouvel acteur, c'est-à-dire si elle n'a pas déjà construit une complexité pour anticiper ça, elle va reculer dans le fameux syndrome de la Reine Rouge. C'est pour comprendre que la complexification n'est pas un processus qu'on maîtrise si on ne prend les informations que de notre quotidien. Il faut comprendre que les sociétés complexes dans lesquelles on vit aujourd'hui, elles sont là pour répondre à des dangers, des risques, les risques sanitaires, les Covid par exemple, les risques d'agression extérieure, les risques économiques, etc., qui sont très ponctuels dans l'histoire, hein, mais qui ont des effets sur la complexification globale et à long terme. Voilà. Ce point étant précisé, je vais malheureusement rappeler que dans cette complexification globale et dans cette soif de ressources dans lesquelles vivent nos sociétés pour répondre à parfois des problèmes juste ponctuels. Et bien, dans l'ensemble, nos sociétés se complexifient et consomment de plus en plus de ressources. Je passe très vite sur la grande accélération que tout le monde connaît très bien, qui commence maintenant à avoir des effets extrêmement regrettable. Alors le Washington Post, pardon, a posté récemment, là, début 2026, en fait, j'ai pas la date sur le slide, mais c'était assez récent, 2 ou 3 semaines, des chiffres, voilà, qui montrent que peut-être, ça y est, nous sommes rentrés dans une accélération du réchauffement climatique. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ce qui n'est pas encore bien déterminé aujourd'hui, c'est si cette accélération est vraiment, elle reste couplée à nos émissions de CO2 qui, elles, continuent à augmenter, d'accord? Ou si il y a une forme d'emballement un peu plus autonome au gré de la réduction de capture, voilà, de la recapture du CO2 naturel, hein, par les puits de carbone, etc. Donc c'est une question qui reste ouverte. En tout cas, je voulais vous témoigner et puis montrer les graphiques qui montrent cette inquiétude. C'était très débattu depuis de nombreuses années, cette accélération du réchauffement climatique. Maintenant, on a des chiffres qui laisseraient craindre vraiment cette accélération plus ou moins autonome, et le débat reste ouvert sur cette autonomie de l'accélération. Alors, bon, on va passer sur le cœur de notre échange aujourd'hui. On accélère toujours plus et on aimerait pourtant bien faire. C'est vraiment, on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. Ni moi, ni toi, ni les entreprises, ni les citoyens, personne sur la planète n'a envie de se retrouver à gérer une accélération de tous les problèmes, une augmentation de la consommation de toutes les ressources. Mais nous sommes une espèce comme les autres qui se retrouve à gérer des choses, des risques, comme un peu toutes les autres espèces qui nous ont précédés, que ce soit la santé, les risques sanitaires. Alors on appelle ça des risques sanitaires, ça peut être tout simplement une contagion, une bactérie qui circule dans un troupeau. Ça peut être, évidemment, la prédation est un risque, pas permanent, mais omniprésent dans la nature. Les êtres vivants et nous répondons un peu aux mêmes dangers, aux mêmes besoins, et l'alimentation fait partie des besoins essentiels. Et nous, on a répondu à tous ces besoins de la même façon, au départ, en tout cas pour les mêmes raisons, mais de façon différente. Nous avons quand même augmenté nos capacités techniques à répondre aux besoins alimentaires, de sécurité et de santé. Bon. Mais ça reste commun à la vie. Je pense que nous, notre espèce se trouve dans une situation d'injonction paradoxale, c'est que la vie nous a donné une capacité extraordinaire de pensée, de cognition, de créativité, de développement technique, etc. Mais que d'une part, c'était déjà le cas pour la vie auparavant, et que c'est devenu pour nous quelque chose de destructeur. C'est ça, cette injonction paradoxale. C'est que c'est la vie qui nous a amenés dans cette voie que nous suivons aujourd'hui. Nous suivons le même projet, s'il y a un projet en tout cas de développement de la vie, qui est positif, puisque nous sommes très heureux d'être là, la vie s'est développée, s'est complexifiée, et puis voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de but en soi, mais qu'on ne peut pas qualifier ni de positif ni de négatif. Sauf que nous sommes aujourd'hui avec des outils et des capacités qui font que nous allons détruire notre propre condition de vie. Donc il y a quelque chose de positif, la vie nous a amenés dans la situation que nous vivons, et en même temps, la vie, l'existence, je dirais au sens large, veut nous retirer ça, ou nous oblige à nous retirer ça un jour, parce que nous détruisons les conditions mêmes de notre vie. C'est une forme d'injonction paradoxale que nous devons émotionnellement et puis cognitivement gérer, et c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Comment on fait pour gérer cette injonction paradoxale, pour rester cohérent, pour avoir des émotions cohérentes dans un double message? À la fois, la vie nous donne de quoi vivre et nous pérenniser, nous reproduire, nous développer, et en même temps, on sait qu'elle va nous le retirer, ou elle nous le retire déjà de bien des façons. Et l'écologie, dans cette injonction paradoxale, elle propose des récits, à la fois pour comprendre, expliquer et aussi résoudre. Mais on voit bien que ça ne marche pas terrible. Ça ne marche pas très bien, on est toujours dans cette accélération, on consomme toujours plus, etc., on l'a vu. Et c'est là qu'Orwell intervient. Orwell, il a proposé quand même, dans sa dystopie, cette nouvelle langue qu'il décrit comme étant utile pour la destruction des mots. Et il dit « La révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. » Il y a chez Orwell une dénonciation de la puissance du langage pour disqualifier le réel et pour détruire la mise en sens du réel. En particulier, je vais insister, je vais me focaliser sur un moment très, 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 très fort de son récit, de 1984, donc. Alors là, je vous mets sur le slide deux sources vidéo qui m'ont inspiré en plus du livre. Donc je vais plus ou moins citer, quand je le citerai, je vous le dirai, Thibaut Giraud de Monsieur Phi, donc la première slide, pardon, la première vignette, et puis Bolchegeek, voilà, en dessous, qui a fait une vidéo pour l'humanité. Et je vais vous raconter le moment, pour moi, clé, poignant de 1984. Winston, qui est le personnage principal du livre, est soumis à la torture psychologique en particulier, mais aussi physique. Il subit des décharges électriques, il doit répondre à des questions, il subit des décharges électriques. Et le tortionnaire demande à Winston combien il montre de doigts. Il montre quatre doigts. D'accord? Et il dit, combien de doigts, Winston? Quatre. Et l'aiguille monte à 60, une décharge. Peu importe, 60, ça veut dire une décharge forte. Il repose la question, combien de doigts, Winston? Quatre. Et une nouvelle décharge encore plus forte. Combien de doigts, Winston? Et là, Winston commence à répondre 5, 5, 5, alors qu'il y a toujours quatre doigts qui sont visibles. Non, Winston, c'est inutile, vous mentez, vous pensez encore qu'il y en a quatre. Combien de doigts, s'il vous plaît? 4, 5, 4, tout ce que vous voudrez, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez cette douleur. Et enfin, il continue à poser la question une ultime fois. Je montre combien de doigts, Winston? Toujours 4. Et Winston dit, je ne sais, vous me tuerez si vous faites encore cela. 4, 5, 6, en toute honnêteté, je ne sais pas. C'est ça l'objectif de la torture ici. Ce n'est pas que Winston dise 4 égale 5 ou 2 plus 2 égale 5. C'est qu'ils disent, je ne sais pas, je ne sais plus, ça n'a plus de sens, votre question ne m'importe plus, je ne peux pas y répondre. Le sens est détruit. Et voici comment se situent, à mon sens, les narratifs écologiques face à la mise en sens de notre vécu d'injonction paradoxale, comment les narratifs écologiques soit parviennent à mettre en sens correctement, soit, malheureusement, je vais expliquer, aurait tendance à détruire le sens parce que quelque part ça nous arrangerait. Alors je vais faire un rappel quand même sur le paramètre quantitatif, parce que c'est ça le moment de 1984 qui m'a beaucoup touché, c'est l'aspect quantitatif. Ce qui est détruit prioritairement, c'est le nombre, la quantité. 4 n'est plus égal à 4, 4 peut faire 4, 5, 6, on ne sait plus. En écologie, Nathaniel Vallenhorst nous rappelle que pour lui, la décroissance est une évidence biogéophysique. La croissance est un fantasme d'un point de vue biogéophysique. La décroissance est une évidence. De combien? Très important, de combien? Et il dit, on doit passer de 9 tonnes de CO2 à 2 tonnes. L'extrait est tiré de 2049. Du livre de Nathaniel Vallenhorst qu'il a publié, je crois, en fin d'année dernière ou dans l'année dernière. Et donc, il dit, on doit passer de 9 tonnes de CO2 à 2 tonnes, c'est-à-dire qu'on doit diviser par 4,5. Et les émissions sont corrélées aux revenus, hein, c'est bien ça son calcul. Donc, diviser par presque 5 le salaire médian. Ça, c'est du quantitatif. C'est extrêmement, comment
Ouais,
dire,
c'est clair. Bah oui, c'est clair. Et quand tu fais ton diagnostic avec le. Moi, je l'ai fait avec le Shift Project. C'est vrai que c'est là que tu vois la cible. Je crois que c'est 2600. Et moi, je vois. Bon, je suis pas encore à ce niveau-là. Pourtant, je prends pas l'avion. Je mange pas de viande. Enfin, le moins de viande possible, etc. etc. Mais tu es coincé. Tu peux pas aller. C'est impossible avec ISO consommation de le faire. Même avec tout ce qui est réduction. Des énergies, même en passant à la pompe à chaleur, etc. Tu ne peux pas parce que la structure de l'économie même, avec tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est éducation, te prend déjà 1500 ou 1600. En fait, tu dois changer de société, en fait. Tu peux pas
parfait,
vivre dans la même
écoute Fred,
société.
tu viens d'énoncer exactement l'injonction paradoxale face à laquelle nous nous trouvons. Nous devons faire quelque chose pour résoudre notre problème existentiel et nous ne pouvons pas le faire pour des tas de raisons, pour des tas d'autres raisons systémiques, de compétition, de rennes rouges, etc., de contexte, voilà, d'infrastructures qu'on ne change pas comme ça, de pays qui doivent rester dans lequel on vit, qui doivent rester performants dans la compétition économique, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaye, je pense, que la façon qu'on a de répondre à cette injonction paradoxale quantitative, c'est de combien on doit décroître. Je pense qu'on se raconte des histoires. Alors, rapidement, hein. Bernard Lahire, qui a publié Les structures fondamentales des sociétés humaines, rappelle que alors, le rôle des fictions hein, dans l'évolution de l'humanité. S'il peut paraître étrange de créer des fictions auxquelles on finit par se remettre pour protéger sa vie et celle des personnes de son groupe, cette situation n'est pourtant que la conséquence rationnelle ou logique de trois éléments. L'apparition dans l'histoire évolutive d'une forme de conscience, la capacité à créer verbalement des entités inobservables et inexistantes, très important, et l'impuissance des hommes dépourvus de moyens d'action devant une série de situations de la vie qu'ils ne maîtrisent pas. Et typiquement, les enjeux écologiques, on a du mal à les maîtriser. Il dit, on trouve la magie dans toutes les occupations où le facteur danger joue un rôle considérable. C'est très clair, hein. La fiction pour Bernard Lahire, le récit, le narratif, l'histoire, c'est des choses qu'on met en œuvre en particulier quand on a peur, quand on est effrayé et quand voilà, l'injonction paradoxale de l'existence se montre à nous de façon
Bah, c'est
incontournable.
typiquement les dieux. À l'époque, c'était les dieux grecs, les dieux romains, etc., la religion. À l'époque de la Grande Peste, eh bien, en fait, quelque part, les gens, ils se flagellaient, c'était un fléau de Dieu, etc. Là, maintenant, bah, l'équivalent, c'est le technosolutionnisme. Moi, je
Voilà.
sais que je discute régulièrement avec des personnes qui me disent, mais, de toute façon, on va trouver une solution, la science va nous aider. La science devient comme une religion, une baguette magique qui va résoudre notre problème.
Voilà, je te rejoins parfaitement. C'est exactement ce que voulait voilà, décrire Bernard. Et puis, au cœur de ces récits, souvent, en particulier les mythes, ils sont censés nous aider à avoir un rapport au réel pertinent. On sait qu'ils sont faux, mais ils sont utiles pour dire le vrai. Mais par contre, il arrive aussi qu'au cœur des récits qu'on se fait, ben, on fasse de vraies erreurs, qu'on dise vraiment n'importe quoi. Et donc, Olivier Houdet, qui est un chercheur en neurosciences cognitives, explique qu'à partir de l'adolescence, on ne devrait plus faire d'erreurs logiques. C'est le stade le plus élaboré de l'intelligence conceptuelle et abstraite. Voilà. Pourtant, le cerveau des adolescents et des adultes continue à faire des erreurs perceptives systématiques dans certaines tâches de logique. J'avance. J'ajoute aussi, et là je me réfère à la théorie argumentative du raisonnement, développée par Dan Sperver et Hugo Mercier en particulier dans leur livre L'énigme de la raison. Ils disent, selon la théorie argumentative, nous raisonnons, hein, c'est-à-dire que nous essayons de comprendre le monde, principalement lorsque nous devons chercher des arguments pour convaincre une autre personne. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne cherche pas à raisonner selon cette théorie pour comprendre mieux le monde. On cherche prioritairement à raisonner pour répondre aux arguments de quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose, c'est pas le même but. La fonction du raisonnement n'est pas de nous aider à former de meilleures connaissances généralement, mais d'évaluer les arguments afin de déterminer les prémices qui seront convaincantes ou alors les conclusions qu'il faut accepter. Donc en fait, on sait qu'on se raconte des fictions. On sait qu'on peut faire des erreurs logiques dans ces fictions, et on sait que de toute façon, ces fictions-là, elles n'ont pas pour but, par défaut, de décrire le réel mieux, mais juste de répondre aux arguments des autres pour obtenir quoi, et je le précise, du réconfort émotionnel, une identité sociale. Parce que quand on énonce des choses que les autres entendent et acceptent, eh ben on est reconnu, et ça fait du bien émotionnellement, ça donne une identité, on crée du réseau et on existe. Voilà, c'est un critère existentiel. Donc, du réconfort émotionnel, du crédit social et puis bien sûr du crédit tout court. C'est-à-dire que quand on énonce des récits, quel que soit leur contenu, qui conviennent à la société dans laquelle on appartient, on est souvent rémunéré pour le faire.
Ah, mais c'est vrai, et c'est vrai que cet aspect logique, moi je parle au niveau des ventes, c'est pas ça qui fait souvent la décision. Ce qui fait la décision, c'est cet aspect émotionnel. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, par exemple par Robert Cialdini dans son livre Influence et Manipulation, qui montrent bien que il y a beaucoup de décisions qui sont irrationnelles, comme l'histoire de les personnes à qui on envoie un courrier en disant bah tiens est-ce que les gens qui sont écologiques sont plutôt bien appréciés ta ta ta, ta et ils ont un comportement qui va être justement écologique, donc on travaille là-dessus. On a travaillé également avec un chercheur et un expert en neurosciences, et il nous expliquait, par exemple, dans ce cas de figure qui était assez typique justement sur cet aspect émotionnel, il nous disait que ben là, il y avait une entreprise d'assurance qui voulait en fait vendre en fait des contrats de prévoyance à des gens qui venaient souscrire un prêt. Ils n'arrivaient pas parce que la personne qui venait là, elle disait ben non, moi j'ai pas envie de, je suis là pour un prêt, je suis pas là pour acheter un truc de prévoyance. Et le vendeur aussi il disait, mais non, mais j'arriverai jamais à vendre ce truc-là à un client, il n'est pas venu pour ça, c'est pas le moment, blablabla, les gens en veulent pas, plus c'est anxiogène. Et en fait, Marc disait, ben voilà, dans ces cas-là, une des solutions, c'est de travailler sur l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est au début de l'entretien, il leur dit, ben voilà, bon, bienvenue pour cet entretien, on va parler du prêt, etc. Tiens, rappelez-moi qu'à la fin, il faudrait que je vous parle d'une chose, parce que ça concerne souvent les gens comme vous qui sont en train de souscrire un emprunt, et c'est quelque chose quand même qui est très important. Mais voilà, on en parlera tout à l'heure, on commence sur l'essentiel. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La personne disait, mais en fait, vous m'aviez dit un truc. Et c'est là, en fait, qu'il est capable de dire, bah oui, la prévoyance, c'est lié à votre emprunt, etc. Et ils sont montés d'un taux de vente qui était extrêmement faible à peu près 30% de ventes qui ont été proposées systématiquement. Et là, c'est pas du tout de la raison, ça fait appel à l'émotion. Pareil, il nous avait donné d'autres exemples. Ou lorsqu'en fait dans un parcours client on a plein de micro-pensées et on se dit bah tiens faut quand par exemple il nous donne l'exemple de gens qui veulent acheter des pompes à chaleur et ben en fait quand les gens achètent une pompe à chaleur ils ont plein de doutes sur est-ce que c'est le bon produit est-ce que c'est la bonne personne etc etc rationnellement tout le monde a le même discours mais le but c'est de faire une petite différence et nous dire bah voilà un des moyens c'est d'expliquer aux personnes et leur faire confiance et leur montrer que c'est simple et il disait que par exemple pour expliquer ce que c'est une pompe à chaleur, il faut pas dire ce que c'est une pompe à chaleur, mais il faisait du brainstorming avec les commerciaux en disant, mais comment on fait pour expliquer de manière plus simple, plus simple, plus simple? Et à la fin, les commerciaux me disaient, Marc, c'est simple! Une pompe à chaleur, c'est comme en hiver, tu es dehors, tu vois, tu aspires de l'air froid et quand tu souffles, ça fait de l'air chaud. Et bien, une pompe à chaleur, c'est pareil. Et donc, le but, c'était de se dire, bah, on va faire la même chose aux clients pour les rassurer, leur faire comprendre. Et là, on n'est plus
Ah,
dans le
ça marche.
domaine du rationnel, mais de l'émotionnel, encore une fois.
Je te suis de nouveau parfaitement. Il faut vraiment s'imprégner de l'idée que nous ne sommes pas des agents rationnels, comme il se dit fréquemment, et que le bon fonctionnement de nos sociétés ne tient pas à l'énonciation de récits qui parlent du réel, par défaut. Hein, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que par défaut, on se raconte de belles histoires. Pour les pompes à chaleur, comme pour la plupart des sujets, on se raconte d'abord de belles histoires et ensuite on va seulement chercher la vérité derrière. Seulement si on y est obligé, j'ai l'impression. Si on n'y est pas obligé, on va plutôt pas aller chercher la vérité voilà, qui peut se cacher derrière nos fictions. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'un problème quantitatif. Nathaniel Van Horst nous disait qu'il faut diviser par 5 le revenu médian. Mais ça, émotionnellement, c'est pas facile à intégrer. Donc, au-delà du fait que ce soit difficile à faire, c'est pas facile à intégrer. Se dire que on va dire à nos enfants, par exemple, que au fil des années, on va pouvoir leur acheter de moins en moins de choses, leur faire faire de moins en moins d'activités extrascolaires, leur promettre un avenir de plus en plus fermé sur le plan matériel. D'autres questions peuvent se poser, mais en tout cas sur le plan matériel, les humains de 2050 auront 5 fois moins de confort de vie que les humains d'aujourd'hui ou des décennies passées. Et ça, émotionnellement, c'est très dur. Genre, je n'ai pas relevé aujourd'hui de référence sur l'aversion à la perte, mais l'aversion à la perte est une donnée de base de la psychologie cognitive. Nous ne sommes pas faits pour accepter la négativité. C'est quelque chose qui nous fait. Alors, à quantité égale, mettons, hein, virtuellement, à quantité égale, quelque chose de négatif a plus de poids émotionnel que quelque chose de positif. Et donc, naturellement, notre organisme rejette le négatif bien plus que le positif ne le satisfait. Ça s'appelle l'aversion à la perte. Et alors là, on a un problème d'aversion à la perte quantitatif. On va devoir perdre des revenus pour résoudre le problème écologique, donc toujours cette injonction paradoxale.
Ah, mais ce que j'aime bien, c'est en ce complément là, moi ce que j'aime bien, c'est le principe en fait du fait que si c'est toi qui dois agir, forcément tu vas dire non, mais c'est aux autres d'agir. Et c'est la théorie, je crois que c'est la théorie du voleur ou quelque chose comme ça. C'est en fait c'est le fait que si on te dit bah tu que Ah, d'ailleurs, c'est le film de Batman qui est intéressant là-dessus. Si tu regardes dans le film de Batman, quand il y a le Joker en fait qui dit, bah voilà, il y a deux bombes dans deux ferries. Soit en fait tu fais sauter la bombe de l'autre et à ce moment-là l'autre saute et toi t'es sauvé. Soit en fait bah tu fais rien et c'est l'autre qui pourrait faire. Et donc là, c'est cette théorie qui dit que si tu laisses la nature faire, bah les gens sont toujours tentés de dire, bah c'est aux autres de faire des efforts. Et quand je vois en fait tous les discours qui disent, bah c'est on va taxer les pauvres, on va taxer les riches, on va faire ceci, on va faire cela, on sait très bien que ça ne marchera pas. Parce que ça sera toujours aux autres de faire. Et on préférera toujours que ce soit les autres de le faire. Et donc si on veut qu'il y ait vraiment un changement socio-écologique qui soit fait, il faut que tout le monde paye. Que tout le monde fassent l'effort et que ça soit totalement égalitaire, pas que les riches fassent un effort plus important que les pauvres, bien entendu, mais s'il n'y a pas un effort égalitaire, ça ne marchera pas. Et toutes les solutions que je vois où il faut stigmatiser une catégorie d'entreprise, une catégorie de personnes, ça ne marchera pas parce que cette catégorie dira toujours, mais pourquoi moi? Et c'est cet aspect émotionnel qui est vraiment important.
Là encore, je te rejoins. Les verrous, alors les dilemmes du prisonnier, effectivement, les verrous, la crainte que l'autre ne prenne pas
Pas
les
de
mêmes
prisonnier.
décisions que nous, et du coup, ça nous empêche, nous-mêmes, de prendre quelques décisions que ce soit. Et donc, face à ce souci quantitatif, de perte de quelque chose de quantitatif, alors j'ai mis une slide là rapidement pour montrer à quel point les narratifs presque délirants nous paraissent anodins. EDF en 2012, alors l'image est assez vieille, mais pour une raison écologique, ou en tout cas à l'époque de réduction de la consommation d'énergie, on inversait la causalité, c'est-à-dire que EDF expliquait qu'il faut d'abord croire les choses pour qu'elles se produisent. C'était vraiment la domination de l'esprit sur le réel, et on va revenir sur cette idée que l'esprit pourrait dominer le réel. Ça va être un peu la suite de mon développement. Le quantitatif, Olivier Houdet nous disait qu'à l'adolescence, normalement, on ne fait plus d'erreurs logiques. Alors le quantitatif, ce sont des images qui sont inspirées d'exercices de remédiation cognitive ou d'accompagnement du développement cognitif de l'enfant, de l'apprentissage des quantités pour parvenir à faire des calculs mathématiques, etc. Donc on fait, par exemple, à gauche de la vignette, là, on aligne des jetons, une même quantité de jetons, et puis sur l'étape 2, on décale un petit peu une des barres de jetons, et on demande à l'enfant s'il y a toujours autant de jetons. Et l'enfant, avant qu'il acquiert les quantités, il va dire, bah oui, il y en a plus en bas. Il n'y en a plus sur la ligne qui est plus étalée. Quand il aura acquis la conservation des quantités ou la conservation des substances, c'est comme ça que ça s'appelle, il va dire, ben non, parce que si je compte, j'ai toujours autant de jetons sur les deux lignes, donc il n'y a pas plus de jetons au prétexte que ma perception a été modifiée. Ça, c'est très important de retenir que la perception et la cognition peuvent être un peu décalées et que la perception peut mener à des illusions. Sur l'image de droite, on voit que la boule de pâte à modeler de la colonne de gauche est toujours de la même taille, et c'est une même quantité de pâte à modeler sur la colonne de droite dont on va modifier la forme. Et à la fin, c'est un serpentin. On pourrait aussi faire des petites billes. Et on va demander à l'enfant si il y a toujours autant de pâte à modeler dans le serpentin qu'il y en avait dans la boule initiale. Alors, un enfant qui n'a pas acquis correctement la conservation des quantités va dire que le serpentin, il y a moins de pâte à modeler dans le serpentin, puisqu'il est plus fin, voilà. Alors que quantitativement, en termes de masse, il y a toujours autant de pâte à modeler dans les deux formes qui sont pourtant très différentes. Cette notion de conservation des quantités, elle est fondamentale parce qu'elle permet d'accéder à quantité d'autres capacités cognitives. Et en particulier, nous, adultes, quand on regarde l'aiguille du compteur de sa voiture sur, mettons, le réservoir d'essence ou la quantité d'énergie qu'il y a dans la batterie, on est d'accord que l'aiguille et la quantité d'électrons dans une batterie, ça n'a rien à voir physiquement, ce sont deux choses différentes. Mais c'est parce que nous avons acquis la capacité à savoir qu'il y a des conservations de quantité entre des informations perceptives différentes que nous sommes capables de dire si l'aiguille bouge, ça veut dire qu'il y a moins d'énergie dans ma batterie ou dans mon réservoir d'essence. C'est la capacité à comprendre la conservation des quantités est nécessaire pour acquérir des fonctions du quotidien tout à fait basiques, comme lire un compteur. Ça permet aussi de dire et de définir et de comprendre des chaînes de causalité. Ça veut dire que si j'agis sur la pâte à modeler, sur une boule de pâte à modeler, et que je la transforme de telle ou telle façon, mais que je n'enlève ou que je n'ajoute rien, ça veut dire que mon action d'un point A jusqu'à la finalité, elle a suivi une causalité qui n'a pas changé quelque chose, c'est la quantité dans la boule. Donc ça permet de suivre des étapes. Il y a des transformations, il y a une causalité qui fait que notre action change le monde. Pour autant, le monde conserve des propriétés indépendamment de notre action. D'accord? Et ça, c'est important pour comprendre, par exemple, quand on émet X quantité de CO2 dans l'atmosphère, ça a forcément tant de conséquences de réchauffement climatique. Et quand on nie la conservation des quantités, par exemple, ça permet à un Trump de dire tant d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, ça ne veut pas dire tant de réchauffement climatique. Là, il y a une destruction du sens, il y a une destruction des chaînes de causalité qui passe par la destruction de la cognition élémentaire qui est censée être acquise par un enfant de 7-8 ans. D'accord? C'est important pour la suite, parce que j'en reviens à Orwell. Orwell, c'est exactement ce qu'il voulait détruire chez Winston, c'est la perception, c'est la possibilité par la perception de confirmer que les choses ont bien une quantité conservée, malgré ce qu'on voilà, malgré les demandes qu'on a de dire ben non, là il n'y a pas 4, il y a 5, il y a 6. Voilà. C'est ça cette destruction qui est importante. Alors, quelques exemples. Un exemple premier qui m'affecte, je vais être tout à fait honnête, la redirection écologique ne cesse de proclamer. Alors ça veut dire que la redirection écologique prescrit ou en tout cas énonce des récits, on est dans ce type de proposition, des récits, des narratifs qui accompagnent un changement de comportement à vertu écologique ou à vertu d'absorption, de réduction des risques d'effondrement. Voilà, ça s'appelle la redirection écologique, donc le nom veut dire ce que ça veut dire. On énonce des récits pour accompagner le changement écologique. Sauf que un des mantras ou voilà des slogans de la redirection écologique, c'est qu'il serait possible de renoncer mais sans faire de sacrifice. Alors Marc Huret, qui est un urbaniste dans une tribune dans Le Monde, dit « Arrêtons de parler de l'écologie comme d'un renoncement et d'un sacrifice. » Ou alors, il se dit « Contrairement à une idée reçue, renoncer n'est pas se résigner, c'est choisir d'investir ailleurs et autrement. » Et là, moi, j'ai un problème sémantique parce que un renoncement sans sacrifice, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est un petit peu comme souffrir sans avoir de douleur. Tu vois?
Ouais, c'est pas anodin. En fait, si c'est un petit changement, oui, mais comme c'est un gros changement, tu ne peux pas juste dire ça va être différent. C'est un changement de. Enfin, le sacrifice à faire nécessite de faire un véritable changement dans la société actuelle, dans la manière de vivre et dans notre manière de la société au global, sur les piliers, les fondamentaux de la société.
Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire des efforts sans se forcer? Est-ce que tu penses qu'il est possible de tomber sans chuter, de décéder sans mourir? Enfin, ça n'a aucun sens. Le renoncement sans sacrifice, c'est en confrontation direct et frontal avec les définitions des deux mots. Le renoncement, c'est
ouais,
le
parce
fait
que c'est pas un simple effort en fait. On ne demande pas
et
de
oui.
faire un effort. Un effort, c'est un geste qui est limité en portée. Sauf que là, tu m'as dit, c'est pas juste. On ne demande pas un effort. C'est pas de l'économie d'énergie. C'est pas de la rationalisation, d'optimisation qu'il faut faire. C'est, comme tu l'as dit, un renoncement. Et ce renoncement nécessite de revoir les choses de manière frontale.
C'est ce que dit Nathaniel Van Horst. Passer de, enfin, diviser par 5 ses revenus, c'est renoncer à
Donc, confort
l'essentiel de
moderne.
ça. Voilà, c'est renoncer. C'est forcément perdre quelque chose. La définition du renoncement, c'est le fait d'accepter que quelque chose ne se fasse pas, d'abandonner un projet. C'est se sacrifier, c'est sacrifier ce à quoi l'on tient. Je prends souvent les définitions du dictionnaire CNRTL parce qu'elles sont très bonnes. Le renoncement, c'est une attitude vertueuse qui pousse à sacrifier les satisfactions personnelles en vue d'une plus grande perfection morale éventuelle. Mais en tout cas, là, c'est un projet écologique. Mais c'est bien un sacrifice. Le mot, il est au moins deux fois dans la définition du renoncement du CNRTL. Et le sacrifice, de son côté, c'est un renoncement. C'est écrit, c'est un renoncement, une privation que l'on s'impose volontairement ou que l'on est forcé de subir. C'est renoncer à ses intérêts. Voilà. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse énoncer au titre d'un projet écologique quel qu'il soit, une telle injonction paradoxale. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous subissons une injonction paradoxale de laquelle nous ne parvenons pas à nous sortir, et il y a des récits qui peut-être pourront nous permettre de comprendre cette injonction paradoxale, ou il y a des récits qui la renforcent. Je pense que le renoncement sans sacrifice, au-delà du fait que ça n'a aucun sens, ça ne participe pas à mieux comprendre le monde, et je crains que ça puisse illustrer hein, une forme de raisonnement ou de création de novlangue orwellienne.
Ouais, et c'est vrai que ça fait penser aussi à un autre phénomène psychologique. On a parlé tout à l'heure du prisonnier, mais c'est l'effet témoin, le bystander effect, qui est que lorsque tu as un accident de bagnole, et on l'en voit souvent dans l'actualité, des gens qui se font agresser, il y a des gens qui filment ou qui regardent ou qui se disent je pars. Et en fait, c'est l'effet témoin, c'est parce que les gens ne se sentent pas responsable d'intervenir. Si quelqu'un se fait agresser dans la rue et les gens vont partir, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais ça? Et en fait, c'est une diffusion de la responsabilité. Il y a bien quelqu'un d'autre qui va agir. Il y a bien la politique. Il y a bien ceci qui va le faire. Et C'est aussi cet aspect d'individualisation de la société. Et c'est vrai que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire si on se fait agresser ou s'il y a un accident? Il faut dire, hey, vous, monsieur, qui êtes en noir, là, avec des lunettes, aidez cette personne-là tout de suite. Ou vous, monsieur, qui êtes en rouge, aidez-moi. Et à ce moment-là, on sent en fait que c'est sa responsabilité qui est attribuée. Et c'est pour ça que je pense que, comme tu disais, cette division de notre empreinte écologique, enfin l'empreinte écologique, on peut dire ça, ne marchera qu'au moment où on pourra dire, hey, vous monsieur qui prenez l'avion pour partir en vacances tous les ans, vous devez faire un geste. C'est vous là. Comment ça? Moi, mais. Et c'est vrai que j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps où disait que les retraités disaient oui, enfin, c'était un couple de retraités qui disait bah oui, moi je fais attention à ma consommation, je fais attention à ce que j'achète pour la nourriture, j'essaie de faire des économies. Et en même temps, cette étude, enfin, cette interview disait bah oui, mais parce qu'on part en vacances 3 fois dans l'année. Et donc là, tu dis qu'il y a une incohérence totale entre je pars, je fais trois voyages à l'étranger dans l'année, qui est très bien, hein, et en même temps j'économise un petit peu sur les 3-4 euros d'un paquet de pâtes ou quelque chose comme ça. Enfin, pas 3-4 euros, mais voilà. Donc je pense que cet aspect psychologique qui est la responsabilisation d'une entreprise, d'une personne, fera que là, il y aura un effet. Parce que pour l'instant, cette responsabilité, elle est totalement diluée. Et c'est vrai que je connais pas mal de personnes autour de moi qui me disent, j'ai un de mes amis qui me dit, ouais, de toute façon, moi, je vais à l'étranger une fois par an, je me fais plaisir, je travaille beaucoup, j'ai envie de montrer le monde à mon fils. Et on va faire chaque fois, on fait un très beau voyage chaque année. Et en même temps, je lui dis, bah ouais, mais tu sais, l'avion, ça consomme beaucoup. Moi, j'essaie de réduire. J'ai pris une fois l'avion en 5 ans. Ouais, et il me dit, mais ouais, mais attends, moi, je fais des efforts. Tu sais, je consomme peu, je fais ceci, je fais cela. Et en plus, je donne chaque année à WWF. C'est très bien. Et c'est vrai que c'est compliqué de dire à quelqu'un qui fait des efforts, parce qu'il fait des efforts, de dire, bah ouais, mais il fait encore plus d'efforts. Et là, c'est vrai que c'est difficile. Et cet aspect encore de l'effet l'effet témoin quoi, qui est là, mais.
L'effet témoin, et alors, l'effet témoin, c'est important parce que ça veut dire que tu compares des actions, des mouvements. Et effectivement, si on ne peut pas comparer, mettre des mots sur ce qu'il faut agir, on ne pourra même pas se dire ce qu'a le témoin dans sa tête et ça va créer de l'immobilisme. Je pense que c'est un peu ça que tu dénonces en parlant de cet exemple de quelqu'un qui se fait agresser et puis personne bouge autour. Parce que on va craindre quelque chose qui n'est pas quantifié, c'est un danger. Voilà. Mais là, objectivement, il y a un danger. Si quelqu'un se fait agresser, on pourrait se faire agresser soi. Et il vaut mieux se protéger, on est d'accord, parce que ce n'est pas quantifiable, ce danger-là. C'est pour ça que ça s'appelle un danger, à la différence d'un risque. Un risque, on peut le quantifier, un danger, c'est imprévisible. Mais là, on est exposé à un ensemble de risques qu'on connaît, d'accord? Et on n'agit pas, on ne peut pas. À mon sens, on peut d'autant moins agir si on ne quantifie pas l'effort à fournir pour répondre à ce risque. C'est ça, à mon sens, l'injonction paradoxale du renoncement sans sacrifice. La redirection écologique ne quantifie jamais l'effort, ne décrit jamais les termes de l'effort, d'accord? Et donc, en ne décrivant pas les termes de l'effort, ôte le sens de l'effort à fournir et crée de l'immobilisme et de la pensée magique. Parce que comment faire pour renoncer? Si en même temps on me dit que ce renoncement-là, il n'a pas de quantité, il n'a pas de mouvement particulier, et puis il n'y aura pas de sacrifice. En fait, les personnes ont tous les arguments pour ne rien faire. Voilà. C'est complètement devenu insaisissable, autant par les sens que par la raison. Je pense que le renoncement sans sacrifice, c'est une forme d'immobilisme. Pour l'anecdote, moi j'avais aussi proposé une forme d'injonction paradoxale. J'avais parlé il y a près de 10 ans de perspective de construire un déclin. Alors on pourrait dire ça s'oppose, évidemment ça s'oppose. C'est un peu ce à quoi on va être confronté. On a de moins en moins de ressources et il va quand même falloir construire une société avec de moins en moins de ressources. Mais moi je le présentais comme un oxymore, comme quelque chose de effectivement potentiellement impossible et c'est ça, c'est ce contre quoi il va falloir qu'on mette du sens. C'est ce sur quoi il va falloir qu'on mette du sens malgré tout. Ne pas quantifier, hein, ne pas quantifier l'effort à faire, c'est quelque chose qui est permanent dans la prescription écologique, qui est omniprésent. C'est pour ça que j'ai parlé de Nathaniel Van Lennep tout à l'heure, parce qu'il est un des rares, avec Jean-Jacques Covici, à vraiment dire la charge de l'effort, définir la charge de l'effort. Hein.
Ah, aussi, le bilan avec le Chief Project, je l'ai fait. Et je suis, pourtant, comme je dis, j'essaye de faire des efforts. Moi, j'ai pas de voiture, ma femme a une voiture. Mais je vais en transport. Même en faisant des efforts moi-même, je ne peux pas atteindre l'objectif. Et je voudrais. Le seul moyen que je pourrais faire, ce serait de changer de vie, c'est-à-dire de changer d'appartement. Mais pourtant, je suis en immeuble. Ça serait de plus travailler, de changer de vie. Et c'est très compliqué à faire.
Oui,
C'est très compliqué à faire.
mais là au moins tu sais ce à quoi tu renonces, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que tu peux pondérer et indexer des émotions positives ou négatives sur des choses que tu as en connaissance. Tu sais ce que tu ne fais pas bien. Là au moins tu as des représentations sur des affects. Et ça, c'est structurant pour l'esprit. Ôter les représentations des affects, comme obliger à Winston de dire que ça, c'est 5, voilà, c'est faire violence psychologique. Aux gens d'une façon générale, et je vais dérouler un petit peu de quelle façon il y a une forme de violence symbolique, une violence psychologique assez forte dans certains énoncés de prescription écologique, à chaque fois en fait qu'on ne quantifie pas ou qu'on ne définit pas ce qu'il faut faire matériellement pour parvenir à un résultat X ou Y. Alors on en a déjà parlé tous les deux, mais je reste très embarrassé par les notions de résilience et de robustesse. Parce que typiquement, ton corps à toi, le mien, le tous nos corps à nous ont des capacités à répondre à des dangers X, Y, à des maladies, à des agressions, etc. C'est pour ça qu'ils sont devenus complexes. Voilà. Eux aussi, la biologie, elle est devenue complexe, comme nos sociétés, pour répondre au risque de ne pas avoir assez à manger, au risque de se faire agresser ou au risque d'avoir des problèmes de santé. Maintenant, pour répondre à ces dangers, à ces risques-là, nous avons acquis de la complexité d'une part, mais dans cette complexité, il y a de la résilience et de la robustesse. Si je me blesse, mon corps a une capacité de résilience, de réparation, et pour ne pas me blesser, pour éviter ou pour lutter contre des pathogènes, mon corps a des capacités de robustesse. Ce sont des propriétés de nos corps complexes, mais typiquement inscrites dans notre complexité et qui font notre performance adaptative globale. La sobriété, pardon, la résilience et la robustesse sont typiquement des propriétés non quantifiables, intrinsèquement non quantifiables. Je mets au défi quiconque de quantifier la résistance biologique de X ou Y face à un cancer, par exemple. La résilience et la robustesse qu'un organisme peut avoir face à un cancer, face à un virus, je ne sais pas comment ça se quantifie. Et en fait, ça ne peut pas se quantifier. Parce qu'il va y avoir un mouvement de réponse immunitaire contre un virus, par exemple. Ce mouvement de réponse immunitaire n'est pas isolé du fonctionnement basal du corps le reste du temps. Donc on ne peut pas quantifier quelque chose qui est un processus qui démarre à un moment X et qui s'arrête à un autre moment quand il a obtenu le résultat. On ne peut pas l'isoler du fonctionnement global du corps qui implique une consommation de ressources permanente pour entretenir par défaut un moyen de défense dont on aura besoin à un moment donné. On ne peut pas le quantifier, c'est une propriété d'un système complexe dont la complexité est réputée inquantifiable et même parfois indéfinissable ou même indescriptible par les sciences les plus complexes, la biologie, même les mathématiques. Enfin, les sciences de la complexité sont réputées s'échapper ou fuir la capacité que nous pourrions avoir à les circonscrire dans des mots ou dans des quantités mathématiques ou dans des équations. Et donc, en permanence, donner aux entreprises la proposition de travailler à plus de résilience ou de robustesse, pourquoi pas? Mais ça n'est pas quantifiable. On ne sait pas combien ça peut coûter, on ne sait pas combien on peut avoir de résultats avant d'avoir mis en place ça. Et comme ça n'est pas non plus évaluable dans le temps, une entreprise qui aura dit, ben moi j'ai fait des séminaires de résilience et de robustesse et je suis beaucoup plus robuste et résiliente, ne pourra pas du tout en être certaine. Avant, par exemple, qu'une nouvelle entreprise arrive sur le marché avec une stratégie qu'elle aura, mais que la première entreprise n'aura pas anticipée parce qu'elle n'en aura pas connaissance. Elle aura juste développé la résilience et la robustesse, mais ça n'a pas en soi la capacité à répondre à une agression
Ouais,
ou à une
c'est
rivalité.
typiquement l'effet Kodak, la Kodakisation. C'est
Voilà.
l'entreprise en fait qui savait, et donc Kodak avait la technologie numérique, ils avaient développé l'appareil photo, mais pour eux c'était trop en contradiction avec leur business model de vente de pellicules chimiques qu'ils ont au début nié ce brevet-là. Enfin, ils n'ont pas utilisé. Et pourtant, ils avaient l'appareil photo, ils avaient les personnes. Et après, quand c'est lancé, ils ont dit « Mais non, mais on ne peut pas renier, tuer la poule aux œufs d'or. » Et donc, ils n'ont pas voulu faire l'appareil photo. Et ils ont fait quoi ? Ils ont fait du mixte. C'est-à-dire, quand je ne me souviens plus ce que c'était. On avait un appareil photo numérique, mais il fallait le faire développer dans un magasin. Et ils ont disparu. C'est l'effet pouleuse d'or. Et moi, je l'ai vécu dans certaines entreprises, où, par exemple, chez un éditeur de logiciels, on n'a pas changé le business model du modèle « j'installe chez l'ordinateur et je vends une licence » au modèle cloud où tu payes un abonnement. Et ça, je pense que c'est très dur pour une entreprise de tuer le modèle et d'oser se remettre en question. Surtout que là, dans la transition socio-écologique qui est à venir, on ne voit pas encore le problème arriver. Ce qu'on voit actuellement, c'est le ralentissement économique qu'on perçoit, qu'on touche, à chaque fois je vous le dis, on touche du doigt le problème, où les gens disent oh, « c'est une crise conjoncturelle qui arrive ». Non, si tu regardes la grande, le big picture, la vue globale, tu vois bien que ça va mal se finir et que c'est maintenant qu'il faut anticiper quand l'activité économique et on a encore les moyens d'agir, parce que, comme je dis toujours, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Et malheureusement, quand on est au pied du mur, on a moins de choix. On ne peut plus freiner. C'est comme une voiture. Si tu freines en avance, tu peux éviter le mur. Si tu continues à foncer, à accélérer, ce qui est le cas actuellement, eh ben, le mur qui est en face, on va se le prendre de face et ça fera très mal. Même avec les bons airbags, comme tu disais.
Voilà. Et tu décris très bien, on a du mal à connaître les risques auxquels on va se confronter. Voilà, les risques, ils sont en train d'arriver. On a quand même une petite appréhension de ces risques-là. Mais est-ce qu'il vaut mieux investir une forme de résilience et de robustesse dans l'absolu, des abstractions comme ça, ou essayer mieux encore de connaître et stratégiser des actions concrètes plutôt que, à mon sens, résilience et robustesse face à la concrétude de l'adaptation d'une entreprise, c'est des coquilles vides. Une entreprise, elle sait très bien être une entreprise qui fonctionne, c'est comme nos corps à nous, le tien, le mien, ils ont déjà la résilience et la robustesse qui leur servent à fonctionner. C'est un peu comme en marketing de la santé, on vous vend des trucs pour renforcer les défenses immunitaires. Voilà, la résilience et la robustesse, c'est ça, c'est renforcer les défenses immunitaires. Médicalement, on sait très bien que ça ne marche pas. Les médicaments supposés renforcer les défenses immunitaires, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas comme ça que le système immunitaire fonctionne. Il a juste besoin d'une alimentation saine et d'un environnement sain. C'est tout. C'est déjà fourni dans les propriétés du corps, le système immunitaire. D'accord ? On ne peut pas se dire « je vais être plus résilient et robuste, je vais avoir un meilleur système immunitaire en mangeant différemment ». Ce n'est pas comme ça que les systèmes complexes fonctionnent. Je suis un peu agacé par la résilience et la robustesse, tu auras compris, mais vraiment proposer aux entreprises en particulier, puisque c'est le sujet aujourd'hui, des stratégies vides de contenu, c'est piégeux. Ça ne permettra pas à une entreprise d'anticiper les vrais risques. D'accord ? C'est autre chose que de définir une vraie stratégie d'entreprise. On peut continuer sur les indicateurs écologiques qui font perdre du sens. Hein, c'est toujours ça notre sujet d'aujourd'hui, cette perte de sens orwellienne. On demande à certains experts de l'écologie, la décroissance, c'est combien de réduction de PIB ? C'est la question à laquelle a répondu Nathaniel Van Horst. Il existe encore des gens dans l'écologie qui répondent « on n'a pas besoin de savoir à l'avance ».
Ce que tu disais tout à l'heure. Ça va être un problème, puisque... tu dois anticiper les choses et savoir justement comment t'organiser. Et là, le problème, justement, c'est dans les entreprises, je le vois bien, c'est qu'on reste sur un paradigme de l'ancien temps et on présuppose que ce qui s'est passé par le passé va présupposer ce qui s'est passé dans le futur. Et c'est vrai que nous, nos cultures européennes, depuis au moins une centaine d'années, voire plus, on reste sur un principe de croissance, de continuation, de progrès, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que les organisations sont faites sur du progrès, de la continuation, de l'amélioration, de l'innovation au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, c'est vrai que si on prend le big picture avec Limit to Growth du Club de Rome, on voit bien que les courbes montrent bien qu'à un moment donné, ça a mal se passé. Et je trouve que c'est différent des Chinois qui ont, eux, des problèmes à gérer avec, entre guillemets, plein de soucis. Le grand bond en avant, par exemple, qui était une famine énorme. Donc, eux, ils ont un souvenir de crises qui peuvent vraiment être très, très importantes et mortelles pour le pays. Sauf que nous, je pense qu'on a oublié ça et qu'on a oublié cette résilience et que les Chinois, alors, c'est pas le modèle idéal,
Oui,
je sais pas
évidemment, oui.
mon. Mais ils ont en fait cette psychologie qui est que tout va. Ils savent que ça peut mal se passer. Sauf que nous, on a oublié que ça pouvait mal se passer. Bon, il y a eu la guerre, bien entendu. Hein. Je l'ai pas mentionné,
Oui.
les guerres 14-18, 39-45. Mais on reste comme sur un système qui est plutôt positif depuis 1950. Et je pense que ça, ce système sur la croissance, nous fait qu'on pense que le passé va définir l'avenir.
Et je te rejoins à nouveau. Il y a deux choses. Il y a une chose en commun, pardon, à cette période de croissance et à celle qu'on aborde là. Pendant la période de croissance, il y a quelque chose qu'on n'a pas quantifié, qu'on a voulu ne pas quantifier, ce sont les dégâts écologiques. Aujourd'hui, ce qu'une part de l'écologie refuse de quantifier, c'est l'inverse, c'est-à-dire la part de destruction des avantages acquis, que ce soit sous la contrainte ou pour résoudre le problème écologique. Donc, tu as très bien décrit on a en fait, en quelque sorte, un problème d'hier, c'est de ne pas avoir quantifié une part de choses qui nous reviennent dans la figure aujourd'hui par surprise. Et on rejoue le même travers aujourd'hui en ne quantifiant pas la charge des efforts à fournir. Et j'y viendrai un petit peu plus tard. Ce qui empêche de définir le distributif. Qui va supporter cette charge? Donc ce sont des narratifs qui sont, je le dis maintenant, les narratifs qui ne quantifient pas les efforts à fournir, hein, voilà, redirection écologique, robustesse, résilience, etc., sont des abstractions, des virtualisations d'un avenir qui sont très lourds à porter pour une part de la population et qui commencent à le faire savoir. Parce qu'on ne les désigne pas dans les narratifs écologiques d'aujourd'hui, c'est ceux qui font vraiment déjà des efforts sur le plan économique. Et je vais donner encore quelques exemples. Là, ce que je disais tout à l'heure, la personne qui refuse de dire à l'avance combien on va réduire de PIB à l'avenir, c'est un chantre de la décroissance. On est censé, dans la décroissance, quantifier l'effort de décroissance, sinon ça n'a pas de sens, typiquement. J'y reviens, mais c'est orwellien. Un autre, alors j'apprécie beaucoup le travail de Jean-Marc Jancovici, évidemment pour l'essentiel de ce qu'il produit. J'ai une part de critique également aussi. J'ai été très surpris par voilà, une forme de production de novlangue typique. Donc dans le rapport La souveraineté par la décarbonation, j'en parle parce que c'est problématique pour les entreprises elles-mêmes aussi, ce que je vais énoncer là. Dans le rapport La souveraineté par la décarbonation, la souveraineté industrielle est une question cruciale pour les entreprises européennes et françaises. On parle de bilan carbone et on parle d'énergie sale, on parle de CO2 émis sur le sol et puis de CO2 importé. Et on a proposé, il a été proposé au sein de ce rapport, la notion d'exposition énergétique, qui est définie comme ça. La notion d'exposition énergétique de la France inclut l'énergie consommée sur le territoire, très bien, celle associée à nos importations de biens et de services, celle contenue dans nos propres exportations. C'est pour nous la méthode de calcul la plus complète pour mettre en évidence nos dépendances énergétiques. Très bien, là, je n'ai pas de problème sur la définition. Ce qui m'embarrasse, c'est l'exposition énergétique. C'est, pour moi, pas tout à fait une définition honnête d'une dépendance énergétique. Et surtout, pour en revenir à ce que tu disais sur ce qu'on n'a pas vu de notre histoire passée, c'est un renversement complet des chaînes de causalité, des causalités dont je parlais tout à l'heure. C'est comme de dire que la France, elle est exposée, c'est-à-dire qu'elle est en position de victime, comme on s'expose au soleil pour bronzer, hein. On se met en situation de recevoir. C'est ça, être exposé. D'accord? Exposition énergétique, c'est comme si la France, depuis 2 siècles, s'était en mise, presque passivement, en position de recevoir du carbone du milieu extérieur, des autres pays, des pays d'où elle importe ses hydrocarbures. Mais ça, c'est une inversion de la causalité. La causalité, c'est que depuis 200 ans, la France a conquis des territoires sur le plan tout à fait territorial, colonial, ou a conquis des marchés, ou a même fait la guerre. Pour avoir du pétrole, elle a été proactive d'aller chercher les hydrocarbures à l'extérieur. Elle n'est pas historiquement exposée aux hydrocarbures qu'elle importe. Elle est allée les chercher. Elle a imposé au monde son besoin d'hydrocarbures. Elle est proactive dans ce mouvement-là. L'exposition énergétique, c'est une destruction du sens, dans le sens où les rôles sont inversés. C'est comme si la France était victime des émissions de CO2 des autres pays dont elle importe les hydrocarbures et qu'elle brûle chez elle. Ça n'a pas de sens. Et du coup, ça n'a pas de sens. Quand un entrepreneur, on lui explique qu'il est exposé énergétiquement, quel levier va-t-il utiliser si on lui dit qu'il est soumis, victime, passif, dans une situation d'import non volontaire d'hydrocarbures de l'extérieur? Et bien, il n'a pas de levier, il n'a pas de moyens d'action, il n'a pas de stratégie qu'il puisse mettre en place, puisque ce n'est pas lui. L'exposition énergétique, c'est comme si la France n'était pas responsable de sa situation écologique aujourd'hui. Alors, je sais que ça va paraître un peu à charge, c'est pas à charge parce qu'on ne se rend pas compte, un petit peu comme Orwell le dénonce dans ses livres, on ne se rend pas toujours compte de la mutation de notre lexique, de notre langage, qui nous fait perdre l'accès au sens et nous dépossède des moyens d'action. Je ne ferais pas ce diagnostic si on était super efficace sur l'écologie avec des moyens d'action qui obtiennent des résultats. Ça n'est pas le cas. Non seulement on n'obtient pas les résultats attendus, mais il se développe un important backlash écologique, en tout cas une très forte instrumentalisation des récits écologiques qui dysfonctionnent ou ne fonctionnent pas, au profit d'un backlash écologique plus ou moins grand. J'ai quelques chiffres, on pourra y revenir plus tard. En tout cas, cette position victimaire de la France face au bilan carbone global de la planète, moi je la réfute et je la trouve parfaitement à la fois malvenue et complètement démobilisante ou immobilisante, voire pour les entrepreneurs ou quiconque qui essayerait de comprendre la place de la France dans les émissions mondiales.
Ouais, mais c'est vrai que tu as raison, cette novlangue, on la retrouve souvent et elle induit en erreur, comme le développement durable. Comme tu l'as
Oui,
dit
bien sûr.
précédemment, tu ne peux pas faire de développement durable. Un développement durable, ce n'est pas possible. Tu dois, au contraire, pour que ça soit durable, il faut réduire. Donc ça serait, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais de la réduction durable, mais en tout cas, tu peux pas faire, ou de la neutralité carbone, tu peux pas faire de la neutralité carbone, parce que même si tu achètes des réductions de carbone ailleurs, finalement, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est réduire tes émissions de carbone. C'est pas juste à chercher la neutralité, la transition énergétique, qui est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, c'est que tu l'as dit plein de fois, cette transition énergétique n'a pas lieu ou n'aura pas lieu. C'est aussi ce que dit Jean-Baptiste Fressoz. Hein. Cette transition, pour l'instant, on accumule de l'énergie. Voilà. C'est des choses en fait qui ne sont pas vraies. Une croissance verte ou des choses comme ça. C'est des choses la croissance verte n'arrivera pas. Enfin, pour moi, elle n'arrivera pas puisque ça sera plutôt la décroissance
Ben oui.
verte.
Écoute, moi, l'exposition énergétique, je ne trouve pas ça beaucoup. Je trouve ça tout à fait équivalent à développement durable. Ça ne peut pas avoir plus de sens fonctionnel, opératoire, que le développement durable, et je pense que ça mènera à des impasses adaptatives pour les entrepreneurs concernés. Alors voilà, détruire le sens, casser les thermomètres, on est toujours sur du quantitatif, hein, parce que quand on se met en position d'être exposé énergétiquement, c'est comme si on prenait la quantité et puis on la déniait et on la mettait à l'extérieur et on est victime vraiment. Ce qui est la charge quantitative de responsabilité d'émission de CO2, tac, n'existe plus. Hop, inversion des rôles, on la fait disparaître par un tour de passe-passe. Et ça, c'est parfaitement destructeur. En fait, ça génère. Alors, ces récits sont censés réduire l'incertitude adaptative à l'avenir, et en fait, ils en ajoutent de l'incertitude. Parce qu'en détruisant le sens du réel, eh ben, ils empêchent de pouvoir prendre des décisions cohérentes. Voilà.
Ah ouais, mais tu dis
Alors,
vraiment,
en théorie de la
ça
décision.
évite le débat. Ça évite le débat. Au lieu de débattre sur cet aspect qu'en fait on n'est pas exposé, mais c'est nous qui sommes responsables, on évite le débat et en fait on se dit ben non, finalement on fait une transformation ou on va faire une transformation alors que c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Ça fait pointer sur un mauvais débat.
Exactement. Moi, j'ai appelé ça le collapse washing il y a pas mal d'années maintenant. On peut parler d'irénisme. Alors, l'irénisme, c'est une attitude d'esprit, qui est par ailleurs condamnée par l'encyclique Humani Generis, selon laquelle on tolère de façon tranquille des erreurs graves, inacceptables, par désir exagéré de paix et de conciliation. À nouveau, c'est une définition CNRTL, ce dictionnaire me paraît toujours très sérieux. Et l'irénisme, je pense qu'on est dans une période où les récits écologiques, par souci d'être entendu, c'est un vrai problème, hein, parce que par souci d'être entendu, il se conforme à ce que les gens préfèrent entendre par défaut. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, par défaut, nos corps et nos émotions n'aiment pas la négativité. Voilà.
Il faut que ça soit entendable, comme tu l'as dit.
Et oui, mais c'est un prétexte, hein, qui est parfois assumé. C'est-à-dire que pour être entendable, il faut dire ce que les gens préfèrent entendre. Sauf qu'à force de faire ça, on détruit tellement le sens qu'on vide les narratifs de toute opérabilité et on va même plus loin en fait. On finit par énoncer des choses qu'une certaine population préfère entendre et c'est souvent les plus privilégiés des sociétés. D'accord?
Ouais, c'est mon exemple de tout à l'heure
Voilà.
où tu te dis bah attends moi je prends du shampoing solide, je prends du dentifrice solide, je prends les transports en commun et finalement je prends l'avion. Bah oui, je fais des efforts. Sauf que comme tu l'as dit, comme c'est pas quantifié, t'es bien gentil de faire du dentifrice solide, de prendre un, ça ne suffira pas parce que l'effort n'est pas matérialisé. Et c'est un vrai. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est. On en est conscient. Enfin, les personnes comme toi, moi, qui sont sensibles à ça, en sont conscientes, mais les autres personnes ne savent pas que l'effort qui va, comme on a dit, le sacrifice qui va être nécessaire de faire.
Merci, parce que j'avais justement une illustration. Le renoncement sans sacrifice. La résilience inquantifiable, la robustesse inquantifiable, et j'en passe, hein, j'ai une quantité d'autres exemples. Dans une entreprise, ça équivaudrait à licencier quelqu'un, voilà, mais en continuant à le rémunérer. Parce qu'on n'a pas quantifié l'effet du licenciement sur la personne licenciée, voilà, on n'a pas quantifié, et en plus on ne dit pas qui paye. Non seulement la personne, elle continue à être payée, mais on ne dit pas qui. Et on ne dit
Ah,
pas.
c'est le quoi qu'il en coûte du Covid.
Voilà.
De toute façon, on va résoudre le problème. On va faire tout ce qui a été fait, aide, dépistage, ta, 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 sans se dire qui va payer au final. Et c'est vrai que pour l'instant, cette dette, on l'a pas payée, mais à un moment donné, il faudra quand même payer cette facture. Et cette facture écologique, nous, on devra vraiment la régler à un moment donné.
Imaginons une entreprise qui divise par 5 son chiffre d'affaires, comme Nathaniel Vanhoenhorst le disait, pour réduire son empreinte CO2, mais en disant à ses salariés, bah, vous serez payé pareil.
Ah, c'est impossible.
Ça n'a aucun sens. C'est ça qui est destructeur de la logique même qui fait le tissu social. Ça détruit la capacité des gens à énoncer l'état de leur vie. Ça permet de dire à des récits écologiques, eh ben, on va plus parler de pauvreté, on va parler de sobriété, par exemple. Et ça, c'est une autre façon de faire une violence psychologique aux gens qui subissent déjà une baisse de pouvoir d'achat, qui craignent la pauvreté. Ce sont des paramètres parfaitement quantifiables, mais on remplace ces paramètres parfaitement quantifiables par un mot dont on ne peut pas quantifier la quantité d'efforts à faire. La sobriété, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une abstraction, comme la résilience et la robustesse. Et ça, c'est extrêmement violent. Parce que les gens ne peuvent pas se saisir de ce concept et leur réalité du quotidien est même dénier leur baisse de pouvoir d'achat qu'ils constatent. Alors, je sais que les calculs sont compliqués, mais objectivement, c'est non seulement le pouvoir d'achat, mais c'est surtout l'accès à des satisfactions équivalentes aux générations précédentes qui sont de plus en plus difficiles d'accès en
Oui,
moyenne.
ben
Voilà.
c'est justement un terme, c'était assez intéressant. C'est une personne que je connais qui est créatrice d'entreprise et qui va lancer en fait un business sur le recyclage, enfin la réutilisation des jouets. Et en fait, elle a fait son pitch, comme d'habitude, et elle disait dans une publication qu'elle a faite, et elle disait, j'ai fait mon pitch et il y a une personne qui est d'une var qui a dit, mais vous pouvez pas dire ça. Ce que vous dites est faux. Il y a un chiffre qui est complètement dément. Elle dit, comment ça? Il y a un chiffre qui est complètement dément dans mon pitch. Oui, vous dites qu'il y a 3 millions de Français pauvres. C'est pas possible, il n'y a pas 3 millions de Français pauvres. Renseignez-vous un peu, peut-être 100 000, 300 000, mais 3 millions, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Et en fait, ce qu'elle avait pris pour les personnes entre guillemets pauvres, c'était des personnes qui étaient à 50% en dessous du revenu moyen, les foyers. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il y a, je crois que ça touche même 5 millions de personnes. Et c'est vrai que les personnes pauvres comme ça ne peuvent pas atteindre le niveau moyen et donc elles se sont défavorisées par rapport à la moyenne globale. Et ce que tu disais est très juste, si on demande à des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont en train de difficulté entre, comme en Angleterre, eating or heating, comment tu peux avoir un discours entendable en parlant de la sobriété? C'est un discours qui ne sera pas facile. Et on retrouvera ce fameux dilemme du prisonnier qui est comment tu peux demander à des personnes qui sont tellement justes et qui sont tellement en difficulté de faire encore plus d'efforts? C'est pas possible. C'est déjà une vie impossible. Et c'est pour ça que cet aspect de tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour le faire, autrement ça ne marchera pas. Et des personnes qui seront en difficulté vont forcément voter pour quelqu'un qui va leur
Voilà.
promettre quelque chose qui sera un espoir et qui sera, comme tu l'as dit, non quantifié, make America great
Voilà.
again, qui va les faire rêver parce qu'ils ne voudront pas cet avenir ou encore on va leur promettre quelque chose qui va être négatif pour eux et parce qu'ils ne voient pas de solution. Il n'y a pas de solution.
Merci, voilà, c'est exactement ma conclusion. Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités, dit: on peut continuer à ignorer les alertes sur l'accroissement des inégalités, mais dans ce cas, il ne faudra pas se plaindre des conséquences politiques de cette surdité. Et effectivement, tu le dis très bien, hein, il y a clairement, hein, une bascule politique. Les discours habituels auxquels on est habitué régressent au profit des discours extrême, je ne rentre pas dans les détails. Et puis les votes basculent très rapidement. C'est ce qui peut être qualifié de réactance. La réactance, c'est la contre-réaction lorsqu'on pense ou qu'on croit que sa liberté d'être et d'agir est menacée. Hein. Et ben, quand on fait croire aux gens qu'il va y avoir toujours autant de croissance et de bonheur matériel avec une résolution de problèmes écologiques, mais que les gens ne le vivent pas, ils ont clairement l'impression qu'on leur ment et ils se sentent dépossédés d'un avenir qu'ils vivent déjà de façon difficile, et ils sont même dépossédés des mots pour qualifier cet avenir, puisqu'on ne peut, ils ne peuvent même plus dire qu'ils sont pauvres s'ils se sentent pauvres ou s'ils sont réellement pauvres. Fabien Mandola, professeur en psychologie sociale, décrit la réactance ou la réduction de la réactance. Elle s'exprime de plusieurs façons. Par le rétablissement de la liberté ou du sentiment de liberté, en radicalisant ses opinions, ou par la réalisation de comportements contraires à ceux escomptés. Alors ça, c'est typiquement ce qui se passe en écologie, où on n'a jamais été autant au ski, on n'a jamais pris autant l'avion, et voilà, on n'a jamais fait tout ce qu'il ne faudrait déjà plus faire ou moins faire, d'accord? Donc les statistiques vont à l'encontre du projet écologique planétaire, mais même à l'échelle de la France, on ne fait rien comme il faut, hein, donc clairement, collectivement. Ça ne veut pas dire que localement, il n'y a pas des endroits où ça se passe mieux, mais collectivement, on ne fait pas mieux. Parce que la réactance, nourrie par des récits fallacieux, iréniques, comme je disais, de collapse washing, dystopique pour reprendre Orwell, et ben voilà, ça produit une contre-argumentation, ça décrédibilise, ça, c'est important, selon Fabien Girandola, ça décrédibilise la source du message. Les écologistes, avec ces récits fumeux, sont en train de se décrédibiliser. Et là, on est en train de vivre les élections législatives, l'écologie. C'est peanuts, on verra quel sera le résultat, mais on sait déjà dans les statistiques que l'écologie a considérablement reculé. Ça produit aussi, cette réactance, des productions d'affects négatifs envers la source de ce qui génère cette réactance. Donc, il ne faut pas s'étonner si l'écologie subit une forme de backlash et d'instrumentalisation de ce backlash. Et puis, ça produit aussi, selon Fabien Girandola, pour se protéger, hein, contre le sentiment de perdre de la liberté d'agir, ça produit de l'exposition sélective à l'information. C'est-à-dire que les gens, pour se protéger des narratifs fumeux de l'écologie, vont aller chercher des informations qui les rassurent. Tu le disais, certains vont aller chercher des narratifs rassurants de façon sélective chez les obscurantistes, chez les climato-négationnistes, chez les promoteurs du développement durable ou du transhumanisme, etc., etc. Donc tout ce que je tente d'écrire aujourd'hui a une certaine logique et je le crains, une certaine manifestation vérifiable dans le réel. Alors, on peut peut-être conclure avec de nouveau Orwell, hein, puisque c'était le fil rouge de notre échange. Big Brother existe-t-il? Big Brother, hein, c'est un petit peu le substitut de Dieu dans
Ouais, alors
1984.
moi à l'époque, il me faisait penser à Staline. C'était pour moi le petit père des nations, je sais plus comment il a, le petit père des
Oui,
peuples,
petit père
et
des peuples.
qui était là tout le temps, personnifié, qui vous regardait avec l'affiche où quoi que tu passes, tu vois, il te regarde dans les yeux. Enfin, vas-y, je te laisse continuer.
Mais oui, mais c'est ça. Big Brother existe-t-il? Naturellement, il existe. Le parti existe. Le parti, c'est l'ANGSOC, hein, c'est le parti officiel de 1984. Naturellement, il existe. Le parti existe. Big Brother est la personnification du parti. Existe, alors là c'est Winston qui parle, existe-t-il de la même façon que j'existe? Et il lui est répondu, vous n'existez pas. D'accord? Le sujet n'existe pas. L'individu n'existe pas. Je continue. Une fois encore, un sentiment d'impuissance assaillit Winston. C'est important ce mot, dit en 1949 par Orwell, pour la situation d'aujourd'hui, d'impuissance. Une fois encore, un sentiment d'impuissance assaillit Winston. Il savait ou pouvait imaginer les arguments qui prouvaient sa propre non-existence. Dans les narratifs qu'on lui donnait, il y avait de quoi prouver sa propre non-existence. Mais il n'avait pas de sens, c'était des jeux de mots. Il dénonce ces récits, Winston. Est-ce que la constatation de point « vous n'existez pas » ne contenait pas une absurdité logique? Mais à quoi bon le dire? Et son esprit se contracta à la pensée des arguments fous et indiscutables avec lesquels O'Brien, hein, son tortionnaire, le démolirait.
Ouais, il a renoncé.
Et voilà. Il a renoncé à force que des narratifs de novlangue pure lui ôtent la capacité à décrire le réel. 4, ça peut vouloir dire 3, 6 ou rien du tout. Plus rien n'a de sens, et quand plus rien n'a de sens, c'est soi-même qui disparaît. Et c'est compréhensible que la société se défende contre des narratifs qui font disparaître le vécu objectif, matériel, des gens, des citoyens et des citoyennes. C'est compréhensible. Alors voilà, je peux clore là-dessus. J'avais des chiffres sur la montée du climato-négationnisme, mais je pense qu'on a compris. Voilà, je peux évoquer par exemple un type de réactance violente. Le président de la coordination rurale de l'époque, je ne sais pas s'il l'est encore, a dit « Les écolos et la décroissance veulent nous crever ». Nous devons leur faire la peau. Voilà quelles sont les interactions, parfois, je ne dis pas systématique, mais parfois, entre les narratifs écolos, les prescriptions écologiques et une partie des citoyens français. Et on sait que cette partie-là, les citoyens français qui manifestent une certaine violence, l'actualité nous l'a montré, elle a des échos politiques dans des partis qui relayent très volontiers cette violence. Je pense qu'un côté du narratif politique écologique émet une importante violence psychologique, destructrice de la cognition élémentaire, en particulier de choses qu'on acquiert dans l'enfance, les quantités dont j'ai parlé tout à l'heure, et que cette violence psychologique, cette violence morale, a des effets potentiellement destructeurs de génération de violence réelle, physique, matérielle, et là, c'est un risque de destruction par l'intérieur de nos propres sociétés. Voilà, ma conclusion peut-être.
Merci Vincent. Pour cet échange très riche, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc, si on veut en savoir plus pour toi, Vincent, on va sur quel site internet et quels sont les derniers livres que tu as sortis. Alors, vous savez que tu en as sorti un peu plus récent. Alors oui, t'as les deux articles que tu as sortis dans les derniers magazines.
Voilà, je te remercie. Je pense qu'il est encore accessible, le dernier grand numéro, grand dossier des sciences humaines dans lequel j'ai un article. Tout le dossier est absolument passionnant, hein, c'est sur le corps humain. Alors c'est vraiment un des sujets dont on a parlé aujourd'hui, plus ou moins directement, mais vraiment comment notre corps a évolué, typiquement de façon humaine, au regard des critères écologiques, ce que ça fait aujourd'hui. Et moi, j'ai travaillé sur l'autodomestication. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et puis, dans le livre collectif, hein, « Être humain et protéger le milieu naturel », j'ai abordé voilà, des choses un peu plus profondes et peut-être un peu plus techniques sur la construction de l'esprit, en particulier nos capacités à rendre les objets permanents de façon artificielle dans notre esprit. Et j'ai essayé de montrer quelles répercussions, quelles conséquences ça pouvait avoir, justement, sur ce dont on a parlé aujourd'hui, les récits qu'on se fait sur la réalité et sur notre action. Voilà.
Ok, merci Vincent, et puis à bientôt pour un nouvel jour.
Merci beaucoup, Fred, à très bientôt.